L'inondation. Je m'appelle Louis Roubieux, j'ai 70 ans, et je suis né au village de Saint-Jory, à quelques lieues de Toulouse, en amont de la Garonne. Pendant 14 ans, je me suis battu avec la terre pour manger du pain. Enfin, l'aisance est venue, et le mois dernier, j'étais encore le plus riche fermier de la commune. Notre maison semblait bénie, le bonheur y poussait. Le soleil était notre frère, et je ne me souviens pas d'une récolte mauvaise. Nous étions près d'une douzaine à la ferme, dans ce bonheur. Il y avait moi, encore gaillard, menant les enfants au travail. Puis, mon cadet, Pierre, un vieux garçon, un ancien sergent. Puis, ma sœur Agathe, qui s'était retirée chez nous après la mort de son mari. Une maîtresse-femme, énorme et gaie, dont les rires s'entendaient à l'autre bout du village. Ensuite venait toute la nichée, mon fils Jacques, sa femme Rose et leurs trois filles, Aimée, Véronique et Marie. La première mariée à Cyprien Bouisson, un grand gaillard, dont elle avait deux petits, l'un de 2 ans, l'autre de 10 mois. La seconde, fiancée d'hier et qui devait épouser Gaspard Rabuteau. La troisième, enfin, une vraie demoiselle, si blanche, si blonde, qu'elle avait l'air d'être née à la ville. Ça faisait 10, en comptant tout le monde. J'étais grand-père et arrière-grand-père. Quand nous étions à table, j'avais ma sœur Agathe à ma droite, mon frère Pierre à ma gauche. Les enfants fermaient le cercle par rang d'âge, une file où les têtes se rapetissaient jusqu'au bambin de 10 mois, qui mangeait déjà sa soupe comme un homme. Allez, on entendait les cuillères dans les assiettes. La nichée mangeait dur. Et quelle belle gaieté entre 2 coups de dents. Je me sentais de l'orgueil et de la joie dans les veines lorsque les petits tendaient les mains vers moi en criant « Grand-père, donne-nous donc du pain. Un gros morceau, hein, grand-père ?» Les bonnes journées. Notre ferme, en travail, chantait par toutes ses fenêtres. Pierre, le soir, inventait des jeux, racontait des histoires de son régiment. Tante Agathe, le dimanche, faisait des galettes pour nos filles. Puis c'était des cantiques que savait Marie, des cantiques qu'elle filait avec une voix d'enfant de cœur. Elle ressemblait à une sainte, ses cheveux blonds tombant dans son cou, ses mains nouées sur son tablier. Je m'étais décidée à élever la maison d'un étage lorsque Aimée avait épousé Cyprien. Et je disais en riant qu'il faudrait l'élever d'un autre après le mariage de Véronique et de Gaspard. Si bien que la maison aurait fini par toucher le ciel si l'on avait continué à chaque ménage nouveau. Nous ne voulions pas nous quitter. Nous aurions plutôt bâti une ville derrière la ferme dans notre enclos. Quand les familles sont d'accord, il est si bon de vivre et de mourir où l'on a grandi. Le mois de mai a été magnifique cette année. Depuis longtemps, les récoltes ne s'étaient annoncées aussi belles. Ce jour-là, justement, j'avais fait une tournée avec mon fils Jacques. Nous étions partis vers 3 heures. Nos prairies, au bord de la Garonne, s'étendaient d'un vert encore tendre. L'herbe avait bien 3 pieds de haut, et une oseraie, plantée l'année dernière, donnait déjà des pousses 1 mètre. De là, nous avions visité nos blés et nos vignes, des champs achetés un par un à mesure que la fortune venait. Les blés poussaient dru, les vignes en pleine fleur promettaient une vendange superbe. Et Jacques riait de son bon rire en me tapant sur l'épaule. « Eh bien, père, nous ne manquerons plus de pain ni de vin. Vous avez donc rencontré le bon Dieu pour qu'il fasse maintenant pleuvoir de l'argent sur vos terres. » Souvent, nous plaisantions entre nous de la misère passée. Jacques avait raison. Je devais avoir gagné là-haut l'amitié de quelques saints ou du bon Dieu lui-même. car toutes les chances dans le pays étaient pour nous. Quand il grêlait, la grêle s'arrêtait juste au bord de nos champs. Si les vignes des voisins tombaient malades, il y avait autour des nôtres comme un mur de protection. Et cela finissait par me paraître juste. Ne faisant de mal à personne, je pensais que ce bonheur m'était dû. En rentrant, nous avions traversé les terres que nous possédions de l'autre côté du village. Des plantations de mûriers y prenaient à merveille. Il y avait aussi des amandiers en plein rapport. Nous causions joyeusement, nous bâtissions des projets. Quand nous aurions l'argent nécessaire, nous achèterions certains terrains qui devaient relier nos pièces les unes aux autres et nous faire les propriétaires de tout un coin de la commune. Les récoltes de l'année, si elles tenaient leurs promesses, allaient nous permettre de réaliser ce rêve. Comme nous approchions de la maison, Rose, de loin, nous adressa de grands gestes en criant « Arrivez donc !» C'était une de nos vaches qui venait d'avoir un veau. Cela mettait tout le monde en l'air. Tante Agathe roulait sa masse énorme, les filles regardaient le petit, et la naissance de cette bête semblait comme une bénédiction de plus. Nous avions dû récemment agrandir les étables où se trouvaient près de 100 têtes de bétail, des vaches, des moutons surtout, sans compter les chevaux. « Allons, bonne journée » m'écriai-je. « Nous boirons ce soir une bouteille de vin cuit. » Cependant, Rose nous prit à l'écart et nous annonça que Gaspard, le fiancé de Véronique, était venu pour s'entendre sur le jour de la noce. Elle l'avait même retenu à dîner. Gaspard, le fils aîné d'un fermier de Morange, était un grand garçon de 20 ans, connu de tout le pays pour sa force prodigieuse. Dans une fête à Toulouse, il avait vaincu Martial, le lion du midi. Avec cela, bon enfant, un cœur d'or, trop timide même, et qui rougissait quand Véronique le regardait tranquillement en face. Je priai Rose de l'appeler. Il restait au fond de la cour à aider nos servantes qui étendaient le linge de la lessive du trimestre. Quand il fut entré dans la salle à manger où nous nous tenions, Jacques se tourna vers moi en disant « Parlez, mon père !»« Eh bien, dis-je, tu viens donc, mon garçon, pour que nous fixions le grand jour ?»«
Oui, c'est cela, père Roubieux, » répondit-il, les joues très rouges.
« Il ne faut pas rougir, mon garçon, » continuai-je. « Ce sera, si tu veux, pour la Sainte Félicité, le 10 juillet. Nous sommes le 23 juin, ça ne fait pas 20 jours à attendre. Ma pauvre défunte femme s'appelait Félicité, et ça vous portera bonheur. Hein? Est-ce entendu?
Oui, c'est cela, le jour de la Sainte Félicité, père Roubieux. »
Et il nous allongea dans la main, à Jacques et à moi, une tape qui aurait assommé un bœuf. Puis il embrassa Rose en l'appelant sa mère. Ce grand garçon, au point terrible, aimait Véronique à en perdre le boire et le manger. Il nous avoua qu'il aurait fait une maladie si nous la lui avions refusée. « Maintenant, repris-je, tu restes à dîner, n'est-ce pas? Alors, à la soupe, tout le monde! J'ai une faim du tonnerre de Dieu, moi !» Ce soir-là, nous fûmes 11 à table. On avait mis Gaspard près de Véronique, et il restait à la regarder, oubliant son assiette, si ému de la sentir à lui, qu'il avait par moments de grosses larmes au bord des yeux. Cyprien et Aimé, mariés depuis 3 ans seulement, souriaient. Jacques et Rose, qui avaient déjà 25 ans de ménage, demeuraient plus graves. Et pourtant, à la dérobée, ils échangeaient des regards, humides de leur vieille tendresse. Quant à moi, je croyais revivre dans ces 2 amoureux, dont le bonheur mettait à notre table un coin de paradis. Quelle bonne soupe nous mangeâmes ce soir-là! Tante Agathe, ayant toujours le mot pour rire, risqua des plaisanteries. Alors, ce brave Pierre voulut raconter ses amours avec une demoiselle de Lyon. Heureusement, on était au dessert et tout le monde parlait à la fois. J'avais monté de la cave 2 bouteilles de vin cuit. On trinqua à la bonne chance de Gaspard et de Véronique. Cela se dit ainsi chez nous, la bonne chance.
c'est de ne jamais se battre, d'avoir beaucoup d'enfants et d'amasser des sacs d'écus. Puis on chanta. Gaspard savait des chansons d'amour en patois. Enfin, on demanda un cantique à Marie. Elle s'était mise debout. Elle avait une voix de flageolet très fine et qui vous chatouillait les oreilles. Pourtant, j'étais allée devant la fenêtre. Comme Gaspard venait m'y rejoindre, je lui dis « Et il n'y a rien de nouveau par chez vous ?»«
Non, » répondit-il. « On parle des grandes pluies de ces jours derniers. On prétend que ça pourrait bien amener des malheurs. »
En effet, les jours précédents, il avait plu pendant 60 heures sans discontinuer. La Garonne était très grosse depuis la veille, mais nous avions confiance en elle, et tant qu'elle ne débordait pas, nous ne pouvions la croire mauvaise voisine. Elle nous rendait de si bons services. Elle avait une nappe d'eau si large et si douce. Puis les paysans ne quittent pas aisément leurs trous, même quand le toit est près de crouler.
« Bah ! » m'écriai-je en haussant les épaules. « Il n'y aura rien. Tous les ans, c'est la même chose. La rivière fait le gros d'eau, comme si elle était furieuse, et elle s'apaise en une nuit. Elle rentre chez elle, plus innocente qu'un agneau. Tu verras, mon garçon, ce sera encore pour rire cette fois. Tiens, regarde donc le beau temps !»
Et de la main, je lui montrai le ciel. Il était 7 heures, le soleil se couchait. Ah, que de bleu ! Le ciel n'était que du bleu, une nappe bleue immense, d'une pureté profonde, où le soleil couchant volait comme une poussière d'or. Il tombait de là-haut une joie lente qui gagnait tout l'horizon. Jamais je n'avais vu le village s'assoupir dans une paix si douce. Sur les tuiles, une teinte rose se mourait. J'entendais le rire d'une voisine, puis des voix d'enfants au tournant de la route devant chez nous. Plus loin, montaient, adoucis par la distance, des bruits de troupeaux rentrant à l'étable. La grosse voix de la Garonne ronflait, continue. Mais elle me semblait la voix même du silence, tant j'étais habituée à son grondement. Peu à peu, le ciel blanchissait. Le village s'endormait davantage. C'était le soir d'un beau jour, et je pensais que tout notre bonheur, les grandes récoltes, la maison heureuse, les fiançailles de Véronique, pleuvant de là-haut, nous arrivaient dans la pureté même de la lumière. Une bénédiction s'élargissait sur nous, avec l'adieu du soir. Cependant, j'étais revenue au milieu de la pièce. Nos filles bavardaient, nous les écoutions en souriant. Lorsque, tout à coup, dans la grande sérénité de la campagne, un cri terrible retentit, un cri de détresse et de mort. « La Garonne ! La Garonne !» 2. Nous nous précipitâmes dans la cour. Saint-Jory se trouve au fond d'un pli de terrain, en contrebas de la Garonne, à 500 mètres environ. Des rideaux de hauts peupliers, qui coupent les prairies, cachent la rivière complètement. Nous n'apercevions rien, et toujours le cri retentissait. « La Garonne ! La Garonne !» Brusquement, du large chemin devant nous, débouchèrent 2 hommes et 3 femmes. Une d'elles tenait un enfant entre les bras. C'étaient eux qui criaient, affolés, galopant à toutes jambes sur la terre dure. Ils se tournaient parfois. Ils regardaient derrière eux, le visage terrifié, comme si une bande de loups les eût poursuivis.
« Eh bien, qu'ont-ils donc ?» demanda Cyprien. « Est-ce que vous distinguez quelque chose, grand-père ?»«
Non, non, » dis-je. « Les feuillages ne bougent même pas. »
En effet, la ligne basse de l'horizon, paisible, dormait. Mais je parlais encore lorsqu'une exclamation nous échappa. Derrière les fuyards, entre les troncs des peupliers, au milieu des grandes touffes d'herbe, nous venions de voir apparaître comme une meute de bêtes grises, tachées de jaune, qui se ruaient. De toutes parts, elles pointaient à la fois. Des vagues poussant des vagues, une débandade de masses d'eau moutonnant sans fin, secouant des baves blanches et branlant le sol du galop sourd de leur foule. À notre tour, nous jetâmes le cri désespéré
« La Garonne ! La Garonne !»
Sur le chemin, les deux hommes et les trois femmes couraient toujours. Ils entendaient le terrible galop gagner le leur. Maintenant, les vagues arrivaient en une seule ligne, roulantes, s'écroulant avec le tonnerre d'un bataillon qui charge. Sous leur premier choc, elles avaient cassé trois peupliers, dont les hauts feuillages s'abattirent et disparurent. Une cabane de planches fut engloutie. Un mur creva. Des charrettes dételées s'en allèrent, pareilles à des brins de paille. Mais les eaux semblaient surtout poursuivre les fuyards. Au coude de la route, très en pente à cet endroit, elles tombèrent brusquement en une nappe immense et leur coupèrent toute retraite. Ils couraient encore cependant, éclaboussant la mare à grandes enjambées, ne criant plus, fous de terreur. Les eaux les prenaient aux genoux. Une vague énorme se jeta sur la femme qui portait l'enfant. Tout s'engouffra.
« Vite, vite » criai-je. « Il faut rentrer. La maison est solide. Nous ne craignons rien. »
Par prudence, nous nous réfugiâmes tout de suite au second étage. On fit passer les filles les premières. Je m'entêtais à ne monter que le dernier. La maison était bâtie sur un tertre, au-dessus de la route. L'eau envahissait la cour, doucement, avec un petit bruit. Nous n'étions pas très effrayés.
« Bah !» disait Jacques pour rassurer son monde. « Ce ne sera rien. Vous vous rappelez, mon père, en 55, l'eau est comme ça venue dans la cour. Il y en a eu un pied, puis elle s'en est allée. »
« C'est fâcheux pour les récoltes tout de même !» murmura Cyprien à demi-voix.
« Non, non, ce ne sera rien !» repris-je à mon tour, en voyant les grands yeux suppliants de nos filles.
Aimée avait couché ses deux enfants dans son lit. Elle se tenait au chevet, assise, en compagnie de Véronique et de Marie. Tante Agathe parlait de faire chauffer du vin qu'elle avait monté pour nous donner du courage à tous. Jacques et Rose, à la même fenêtre, regardaient. J'étais devant l'autre fenêtre, avec mon frère, Cyprien et Gaspard.
« Montez donc »
criai-je à nos deux servantes, qui pataugeaient au milieu de la cour.
« Ne restez pas à vous mouiller les jambes !»«
Mais les bêtes » dirent-elles. « Elles ont peur, elles se tuent dans l'étable !»«
Non, non, montez, tout à l'heure nous verrons !»
Le sauvetage du bétail était impossible si le désastre devait grandir. Je croyais inutile d'épouvanter nos gens. Alors, je m'efforçais de montrer une grande liberté d'esprit. Accoudé à la fenêtre, je causais, j'indiquais les progrès de l'inondation. La rivière, après s'être ruée à l'assaut du village, le possédait jusque dans ses plus étroites ruelles. Ce n'était plus une charge de vagues galopantes, mais un étouffement lent et invincible. Le creux, au fond duquel Saint-Jory est bâti, se changeait en lac. Dans notre cour, l'eau atteignit bientôt un mètre. Je la voyais monter. Mais j'affirmais qu'elle restait stationnaire. J'allais même jusqu'à prétendre qu'elle baissait.
« Te voilà forcé de coucher ici, mon garçon !»
dis-je en me tournant vers Gaspard. « À moins que les chemins ne soient libres dans quelques heures. »
« C'est bien possible. »
Il me regarda sans répondre, la figure toute pâle. Et je vis ensuite son regard se fixer sur Véronique avec une angoisse inexprimable. Il était 8h30. Au dehors, il faisait jour encore, un jour blanc, d'une tristesse profonde sous le ciel pâle. Les servantes, avant de monter, avaient eu la bonne idée d'aller prendre deux lampes. Je les fis allumer, pensant que leur lumière égayerait un peu la chambre déjà sombre où nous nous étions réfugiés. Tante Agathe, qui avait roulé une table au milieu de la pièce, voulait organiser une partie de cartes. La digne femme, dont les yeux cherchaient par moments les miens, songeait surtout à distraire les enfants. Sa belle humeur gardait une vaillance superbe, et elle riait pour combattre l'épouvante qu'elle sentait grandir autour d'elle. La partie eut lieu. Tante Agathe plaça de force à la table Aimée, Véronique et Marie. Elle leur mit les cartes dans les mains, joua elle-même d'un air de passion, battant, coupant, distribuant le jeu, avec une telle abondance de paroles qu'elle étouffait presque le bruit des eaux.
Mais nos filles ne pouvaient s'étourdir. Elles demeuraient toutes blanches, les mains fiévreuses, l'oreille tendue. À chaque instant, la partie s'arrêtait. Une d'elles se tournait, me demandait à demi-voix « Grand-père, ça monte toujours ?» L'eau montait, avec une rapidité effrayante. Je plaisantais, je répondais « Non, non, jouez tranquillement, il n'y a pas de danger. » Jamais je n'avais eu le cœur serré par une telle angoisse. Tous les hommes s'étaient placés devant les fenêtres pour cacher le terrifiant spectacle. Nous tâchions de sourire, tournés vers l'intérieur de la chambre, en face des lampes paisibles, dont le rond de clarté tombait sur la table avec une douceur de veillée. Je me rappelais nos soirées d'hiver, lorsque nous nous réunissions autour de cette table. C'était le même intérieur endormi, plein d'une bonne chaleur d'affection. Et tandis que la paix était là, j'écoutais derrière mon dos le rugissement de la rivière lâchée, qui montait toujours. « Louis, me dit mon frère Pierre, l'eau est à 3 pieds de la fenêtre, il faudrait aviser. » Je le fis taire en lui serrant le bras, mais il n'était plus possible de cacher le péril. Dans nos étables, les bêtes se tuaient. Il y eut tout d'un coup des bêlements, des beuglements de troupeaux affolés, et les chevaux poussaient ces cris rauques qu'on entend de si loin lorsqu'ils sont en danger de mort. « Mon Dieu, mon Dieu !» dit Aimé qui se mit debout, les poings aux tempes secoués d'un grand frisson. Toutes s'étaient levées, et on ne put les empêcher de courir aux fenêtres. Elles y restèrent, droites, muettes, avec leurs cheveux soulevés par le vent de la peur. Le crépuscule était venu. Une clarté louche flottait au-dessus de la nappe limoneuse. Le ciel pâle avait l'air d'un drap blanc jeté sur la terre. Au loin, des fumées traînaient. Tout se brouillait. C'était une fin de jour épouvantée, s'éteignant dans une nuit de mort. Et pas un bruit humain, rien que le ronflement de cette mer élargie à l'infini, rien que les beuglements et les hennissements des bêtes. « Mon Dieu, mon Dieu !» répétaient à demi-voix les femmes, comme si elles avaient craint de parler tout haut. Un craquement terrible leur coupa la parole. Les bêtes, furieuses, venaient d'enfoncer les portes des étables. Elles passèrent dans les flots jaunes, roulées, emportées par le courant. Les moutons étaient charriés comme des feuilles mortes, en bandes, tournoyant au milieu des remous. Les vaches et les chevaux luttaient, marchaient, puis perdaient pied. Notre grand cheval gris surtout ne voulait pas mourir. Il se cabrait, tendait le cou, soufflait avec un bruit de forge. Mais les os acharnés le prirent à la croupe, et nous le vîmes, abattu, s'abandonner. Alors, nous poussâmes nos premiers cris. Cela nous vint à la gorge, malgré nous. Nous avions besoin de crier. Les mains tendues vers toutes ces chères bêtes qui s'en allaient, nous nous lamentions, sans nous entendre les uns les autres, jetant au dehors les pleurs et les sanglots que nous avions contenus jusque-là. C'était bien la ruine, les récoltes perdues, le bétail noyé, la fortune changée en quelques heures. Dieu n'était pas juste, nous ne lui avions rien fait, et il nous reprenait tout. Je montrais le poing à l'horizon. Je parlais de notre promenade de l'après-midi, de ces prairies, de ces blés, de ces vignes que nous avions trouvés si pleins de promesses. Tout cela mentait donc, le bonheur mentait. Le soleil mentait quand il se couchait si doux et si calme au milieu de la grande sérénité du soir. L'eau montait toujours. Pierre, qui la surveillait, me cria « Louis, méfions-nous, l'eau touche à la fenêtre !» Cet avertissement nous tira de notre crise de désespoir. Je revins à moi. Je dis en haussant les épaules « L'argent n'est rien. Tant que nous serons tous là, il n'y aura pas de regrets à avoir. On en sera quitte pour se remettre au travail. » « Oui, oui, vous avez raison, mon père, » reprit Jacques fiévreusement. « Et nous ne courons aucun danger. Les murs sont bons. Nous allons monter sur le toit. » Il ne nous restait que ce refuge. L'eau, qui avait gravi l'escalier marche à marche avec un clapotement obstiné, entrait déjà par la porte. On se précipita vers le grenier, ne se lâchant pas d'une enjambée, par ce besoin qu'on a, dans le péril, de se sentir les uns contre les autres. Cyprien avait disparu. Je l'appelai, et je le vis revenir des pièces voisines, la face bouleversée. Alors, comme je m'apercevais également de l'absence de nos deux servantes et que je voulais les attendre, il me regarda étrangement. Il me dit tout bas « Morte ! Le coin du hangar sous leur chambre vient de s'écrouler. » Les pauvres filles devaient être allées chercher leurs économies dans leur mal. Il me raconta, toujours à demi-voix, qu'elle s'était servie d'une échelle jetée en manière de pont pour gagner le bâtiment voisin. Je lui recommandais de ne rien dire. Un grand froid avait passé sur ma nuque. C'était la mort qui entrait dans la maison. Quand nous montâmes à notre tour, nous ne songeâmes pas même à éteindre les lampes. Les cartes restèrent étalées sur la table. Il y avait déjà un pied d'eau dans la chambre. 3. Le toit, heureusement, était vaste et de pente douce. On y montait par une fenêtre à tabatière, au-dessus de laquelle se trouvait une sorte de plateforme. Ce fut là que tout notre monde se réfugia. Les femmes s'étaient assises, les hommes allaient tenter des reconnaissances sur les tuiles jusqu'aux grandes cheminées qui se dressaient aux deux bouts de la toiture. Moi, appuyé à la lucarne par où nous étions sortis, j'interrogeais les quatre points de l'horizon. « Des secours ne peuvent manquer d'arriver, » disais-je bravement. « Les gens de Saint-Ain ont des barques, ils vont passer par ici. Tenez, là-bas, n'est-ce pas une lanterne sur l'eau ?» Mais personne ne me répondait. Pierre, sans trop savoir ce qu'il faisait, avait allumé sa pipe, et il fumait si rudement qu'à chaque bouffée, il crachait des bouts de tuyaux. Jacques et Cyprien regardaient au loin, la face morne, tandis que Gaspard, serrant les poings, continuait de tourner sur le toit, comme s'il eût cherché une issue. À nos pieds, les femmes en tas, muettes, grelottantes, se cachaient la face pour ne plus voir. Pourtant, Rose leva la tête, jeta un coup d'œil autour d'elle en demandant « Et les servantes, où sont-elles? Pourquoi ne montent-elles pas ?» J'évitais de répondre. Elle m'interrogea alors directement, les yeux sur les miens. « Où donc sont les servantes ?» Je me détournais, ne pouvant mentir. Et je sentis ce froid de la mort, qui m'avait déjà effleuré, passer sur nos femmes et sur nos chères filles. Elles avaient compris. Marie se leva toute droite, eut un gros soupir, puis s'abattit, prise d'une crise de larmes. Aimé tenait serré dans ses jupes ses deux enfants, qu'elle cachait comme pour les défendre. Véronique, la face entre les mains, ne bougeait plus. Tante Agathe, elle-même, toute pâle, faisait de grands signes de croix en balbutiant des pater et des ave. Cependant, autour de nous, le spectacle devenait d'une grandeur souveraine. La nuit, tombée complètement, gardait une limpidité de nuit d'été. C'était un ciel sans lune, mais un ciel criblé d'étoiles, d'un bleu si pur qu'il emplissait l'espace d'une lumière bleue. Il semblait que le crépuscule se continuait, tant l'horizon restait clair. Et la nappe immense s'élargissait encore, sous cette douceur du ciel, toute blanche, comme lumineuse elle-même d'une clarté propre, d'une phosphorescence qui allumait de petites flammes à la crête de chaque flot. On ne distinguait plus la terre, la plaine devait être envahie. Par moments, j'oubliais le danger. Un soir, du côté de Marseille, j'avais aperçu ainsi la mer. J'étais resté devant elle, béant d'admiration. « L'eau monte, l'eau monte !» répétait mon frère Pierre, en cassant toujours entre ses dents le tuyau de sa pipe qu'il avait laissé s'éteindre. L'eau n'était plus qu'à 1 mètre du toit. Elle perdait sa tranquillité de nappe dormante, des courants s'établissaient. À une certaine hauteur, nous cessions d'être protégés par le pli de terrain qui se trouve en avant du village. Alors, en moins d'une heure, l'eau devint menaçante, jaune, se ruant sur la maison, charriant des épaves, tonneaux défoncés, pièces de bois, paquets d'herbes. Au loin, il y avait maintenant des assauts contre des murs, dont nous entendions les chocs retentissants. Des peupliers tombaient avec un craquement de mort, des maisons s'écroulaient, pareilles à des charretées de cailloux vidées au bord d'un chemin. Jacques, déchiré par les sanglots des femmes, répétait « Nous ne pouvons demeurer ici, il faut tenter quelque chose. Mon père, je vous en supplie, tentons quelque chose. » Je balbutiais, je disais après lui « Oui, oui, tentons quelque chose. » Mais nous ne savions quoi. Gaspard offrait de prendre Véronique sur son dos, de l'emporter à la nage. Pierre parlait d'un radeau. C'était fou. Et Cyprien dit enfin « Si nous pouvions seulement atteindre l'église !» Au-dessus des eaux, l'église restait debout, avec son petit clocher carré. Nous en étions séparés par 7 maisons. Notre ferme, la première du village, s'adossait à un bâtiment plus haut, qui lui-même était appuyé au bâtiment voisin. Peut-être par les toits pourrait-on en effet gagner le presbytère, d'où il était aisé d'entrer dans l'église. Beaucoup de monde déjà devait s'y être réfugié, car les toitures voisines se trouvaient vides, et nous entendions des voix qui venaient sûrement du clocher. Mais que de danger pour arriver jusque-là. « C'est impossible, » dit Pierre. « La maison des Rimbaud est trop haute, il faudrait des échelles. »« Je vais toujours voir, » reprit Cyprien. « Je reviendrai si la route est impraticable. Autrement, nous nous en irions tous, nous porterions les filles. » Je le laissai aller. Il avait raison, on devait tenter l'impossible. Il venait, à l'aide d'un crampon de fer fixé dans une cheminée, de monter sur la maison voisine, lorsque sa femme aimée, en levant la tête, vit qu'il n'était plus là. Elle cria « Où est-il? Je ne veux pas qu'il me quitte. Nous sommes ensemble, nous mourrons ensemble. » Quand elle l'aperçut en haut de la maison, elle courut sur les tuiles, sans lâcher ses enfants, et elle disait « « Cyprien, attends-moi, je vais avec toi, je veux mourir avec toi. » Elle s'entêta. Lui, penché, la suppliait en lui affirmant qu'il reviendrait, que c'était pour notre salut à tous. Mais d'un air égaré, elle hochait la tête, elle répétait « Je vais avec toi, je vais avec toi, qu'est-ce que ça te fait? Je vais avec toi. » Il dut prendre les enfants, puis il l'aida à monter. Nous pûmes les suivre sur la crête de la maison. Ils marchaient lentement. Elle avait repris dans ses bras les enfants qui pleuraient, et lui, à chaque pas, se retournait, la soutenait. « Mais l'injureté, reviens tout de suite » criai-je. Je l'aperçus qui agitait la main, mais le grondement des eaux m'empêcha d'entendre sa réponse. Bientôt, nous ne les vîmes plus. Ils étaient descendus sur l'autre maison, plus basse que la première. Au bout de 5 minutes, ils reparurent sur la troisième, dont le toit devait être très en pente, car ils se traînaient à genoux le long du faîte. Une épouvante soudaine me saisit. Je me mis à crier, les mains aux lèvres, de toutes mes forces. « Revenez! Revenez !» Et tous, Pierre, Jacques, Gaspard, leur criaient aussi de revenir. Nos voix les arrêtèrent 1 minute, mais ils continuèrent ensuite d'avancer. Maintenant, ils se trouvaient au coude, formé par la rue, en face de la maison Rimbaud, une haute bâtisse dont le toit dépassait celui des maisons voisines, de 3 mètres au moins. Un instant, ils hésitèrent. Puis, Cyprien monta le long d'un tuyau de cheminée avec une agilité de chat. Aimé, qui avait dû consentir à l'attendre, restait debout au milieu des tuiles. Nous la distinguions nettement, serrant ses enfants contre sa poitrine, toute noire sur le ciel clair, comme grandie. Et c'est alors que l'épouvantable malheur commença. La maison des Rimbaud, destinée d'abord à une exploitation industrielle, était très légèrement bâtie. En outre, elle recevait en pleine façade le courant de la rue. Je croyais l'avoir tremblée sous les attaques de l'eau. Et, la gorge serrée, je suivais Cyprien qui traversait le toit. Tout à coup, un grondement se fit entendre. La lune se levait, une lune ronde, libre dans le ciel, et dont la face jaune éclairait le lac immense d'une lueur vive de lampe. Pas un détail de la catastrophe ne fut perdu pour nous. C'était la maison des Rimbaud qui venait de s'écrouler. Nous avions jeté un cri de terreur en voyant Cyprien disparaître. Dans l'écroulement, nous ne distinguions qu'une tempête, un rejaillissement de vagues sous les débris de la toiture. Puis, le calme se fit, la nappe reprit son niveau avec le trou noir de la maison engloutie, hérissant hors de l'eau la carcasse de ses planches fendues. Il y avait là un amas de poutres enchevêtrées, une charpente de cathédrale à demi détruite. Et entre ces poutres, il me sembla voir un corps remué, quelque chose de vivant, tenter des efforts surhumains. « Il vit !» criai-je. « Ah, Dieu soit loué, il vit, là, au-dessus de cette nappe blanche que la lune éclaire !» Un rire nerveux nous secouait. Nous tapions dans nos mains de joie, comme sauvés nous-mêmes. « Il va remonter !» disait Pierre. « Oui, oui, tenez !» expliquait Gaspard. « Le voilà qui tâche de saisir la poutre, à gauche !» Mais nos rires cessèrent. Nous n'échangeâmes plus un mot, la gorge serrée par l'anxiété. Nous venions de comprendre la terrible situation où était Cyprien. Dans la chute de la maison, ses pieds se trouvaient pris entre deux poutres et il demeurait pendu, sans pouvoir se dégager, la tête en bas, à quelques centimètres de l'eau. Ce fut une agonie effroyable. Sur le toit de la maison voisine, Aimé était toujours debout avec ses deux enfants. Un tremblement convulsif la secouait. Elle assistait à la mort de son mari. Elle ne quittait pas du regard le malheureux, sous elle, à quelques mètres d'elle. Et elle poussait un hurlement continu, un hurlement de chien, fou d'horreur. « Nous ne pouvons le laisser mourir ainsi !» dit Jacques, éperdu. « Il faut aller là-bas. On pourrait peut-être encore descendre le long des poutres !» fit remarquer Pierre. « On le dégagerait !» Et il se dirigeait vers les toits voisins lorsque la deuxième maison s'écroula à son tour. La route se trouvait coupée. Alors, un froid nous glaça. Nous nous étions pris les mains machinalement. Nous nous laisserions aller broyer sans pouvoir détacher nos regards de l'affreux spectacle. Cyprien avait d'abord tâché de se raidir. Avec une force extraordinaire, il s'était écarté de l'eau. Il maintenait son corps dans une position oblique. Mais la fatigue le brisait. Il lutta pourtant, voulut se rattraper aux poutres, lança les mains autour de lui pour voir s'il ne rencontrerait rien ou s'accrocher. Puis, acceptant la mort, il retomba. Il pendit de nouveau, inerte. La mort fut lente à venir. Ses cheveux trempaient à peine dans l'eau, qui montait avec patience. Il devait en sentir la fraîcheur au sommet du crâne. Une première vague lui mouilla le front. D'autres fermèrent les yeux. Lentement, nous vîmes la tête disparaître. Les femmes, à nos pieds, avaient enfoncé leur visage entre leurs mains jointes. Nous-mêmes, nous tombâmes à genoux, les bras tendus, pleurant, balbutiant des supplications. Sur la toiture, Aimé, toujours debout, avec ses enfants serrés contre elle, hurlait plus fort dans la nuit.